tout ce que vous avez dit, il a recouvert une bonne partie du champ. Il y a un petit problème qui se pose dès le départ quand on parle de l'enseignement d'économie, c'est que l'économie, c'est plusieurs choses. C'est des principes et des méthodes analytiques, dont vous avez parlé tous les deux, dont il faut essayer d'avoir une compréhension un petit peu ordonnée, pas dans tous les sens, et puis pas avec des critiques immédiates avant qu'on ait compris les concepts. Ensuite, c'est l'histoire des faits, l'économie. Donc l'histoire des faits entendue soit comme mode de preuve, historicisme à l'allemande, soit comme compréhension de l'évolution des institutions dans lesquelles les comportements économiques vont s'inscrire aujourd'hui. Donc l'histoire sert aussi à ça, comprendre pourquoi on a tel type de marché. Et puis enfin, c'est l'évolution des concepts et des méthodes. Et en fait, souvent, on mélange les trois et il faudrait en fait qu'un cours d'économie considère ces trois piliers. Les principes et méthodes analytiques, l'histoire des faits, contemporains et anciens, et l'évolution des concepts et méthodes. Pourquoi l'évolution des concepts et méthodes ? Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs économiques qu'on voit par exemple dans la presse qui ont été dites déjà très souvent depuis trois siècles. On revient toujours sur les mêmes lunes. Les gens ne savent même pas que les ateliers nationaux ont existé, qu'ils étaient proposés par Saint-Simon, etc. Il y a toute une histoire avant l'installation, c'est-à-dire que comme toutes les grandes décisions politiques, elles ont été préparées par des débats idéologiques et des écoles qui ont tenu à ce genre de projet. Et donc on ne sait même pas que ça a été un échec total, puisqu'on ne connaît même pas l'existence, on ne sait même pas que ça existait. Je disais à Philippe récemment que deux licenciés en maths, à l'occasion d'une conversation comme ça, m'ont demandé, parce qu'on parlait de la guerre de 14, mais finalement, qui l'a gagné, les Français ou les Allemands ? Deux licenciés en maths. Vous voyez un petit peu le niveau d'incompréhension. Alors, si vous parlez de la guerre de 70, c'est totalement inconnu de, je dirais, 80% de nos étudiants d'université. Ils ne savent pas, si vous voulez, que Bismarck a fait la guerre de 70 pour l'unité allemande et que donc tout a démarré à ce moment-là dans un but d'unification des petits royaumes allemands. Donc, par exemple, il peut être utile pour le démystifier, quand on parle du multiplicateur keynésien, de signaler que c'est un concept qui est très très antérieur à l'article originel de Kahn qui présente juste le petit mode de calcul connu, et que c'est un concept qui était déjà dans le livre fameux The Lombard Street, là, de Bagehot, en 1873, et qu'il y a une description parfaite, sans compter évidemment toutes les expériences factuelles qui ont été les expériences du multiplicateur, mais même sur le plan conceptuel, sont des choses qui reviennent en permanence, puis on fait comme si c'était apparu en 1930. Donc je pense qu'il est absolument nécessaire d'avoir un cours de base dans les enseignements d'économie à tout niveau, c'est-à-dire à la fois dans les universités et dans les lycées, un cours de base d'histoire économique. Mais qu'ensuite, les professeurs d'économie introduisent de cette histoire des faits et introduisent les problèmes de méthode, si on veut, au fur et à mesure, c'est-à-dire face un petit peu l'histoire de la pensée. Quand il parle de tel concept, dire c'est un concept qu'on retrouve dans le Gideris, par exemple, et qui est décrit comme ça, et que les physiocrates avaient conçu. Bon, et à mon avis, ça éclaire beaucoup les choses de savoir qu'il y a aussi une histoire des faits et des critiques qui ont été faites déjà sur des erreurs. Alors, importance du traitement mathématique, je suis tout à fait d'accord. Bon, d'abord, les mathématiques utilisées en économie sont souvent très simples. C'est de l'algèbre type terminal C, du secondaire, de l'analyse également du secondaire. C'est absolument nécessaire pour l'économétrie. L'algèbre linéaire, qui est aussi extrêmement simple à enseigner, c'est quelque chose de nécessaire. Et c'est absolument indispensable pour décrire les enchaînements causaux. On ne peut pas parler d'expérience de politique avec de la micro-simulation en voyant des effets successifs qui s'interpénètrent sans mettre des équations. C'est pas possible. Sinon, on reste complètement dans la généralité. Vous savez que le grand débat entre Allais et Debreu, c'était... Debreu disait, je veux les conditions les plus générales pour prouver, par exemple, l'existence d'un équilibre, la stabilité éventuellement. Il a gardé dans son tiroir des quantités de papiers, enfin, de notes sur la stabilité qu'il n'a jamais voulu publier, parce qu'il disait, je ne suis pas arrivé au bon théorème pour la stabilité de l'équilibre général, ce qui est gênant, parce que s'il n'est pas stable, il n'existe pas, l'équilibre général. Bon, donc, enfin, on ne le voit jamais, puisqu'il n'est pas stable, il disparaît tout de suite. Mais il ne voulait pas le publier, parce que ce n'était pas assez général, et Allais lui disait, moi, j'ai besoin de calculer. Allais, c'était un ingénieur des mines, il dit, moi, j'ai besoin d'analyse classique, parce que je veux calculer des effets. Je ne veux pas juste dire l'effet existe, mais je ne peux même pas dire s'il est négatif ou positif. Donc il y a toujours ce débat. Et pour Calculer, ben, on est obligé évidemment d'une algèbre, d'une analyse. Alors toutes les critiques habituelles des mathématiques sont assez ridicules, incluant celle de Keynes, qui premièrement se refusait à l'écriture mathématique, même pas la modélisation, mais juste la transmission sur une écriture mathématique de propositions qu'on peut également transmettre de manière littéraire, mais qui refusait toute estimation et test de modèles statistiques. Il a eu un débat avec Tim Bergen en disant « Il est monstrueux d'essayer avec des statistiques de tester des lois économiques. Pourquoi ? Parce que l'incertitude est totale. » Donc il revenait exactement aux positions, il ne le savait pas parce qu'il ne les avait pas lues, des économistes autrichiens, c'est-à-dire Bonnbauer, surtout von Mises, qui avait écrit bien avant, par exemple « Fundamentals of Economic Methodology » de von Mises, qui est un livre absolument remarquable, qui doit être de 1926, et donc il considérait que parce qu'il y avait incertitude, il y avait impossibilité, c'était lié évidemment à ses travaux sur le traité des probabilités, mais je veux dire que les critiques habituelles des méthodes mathématiques et statistiques sont assez ridicules, et c'est sûrement une des raisons pour lesquelles les économistes autrichiens qui ont apporté beaucoup en économie à partir de Karl Menger n'ont pas développé quelque chose qui s'est installé, si vous voulez, dans les pratiques à la fois analytique et de décision économique, parce que justement, ils ont refusé toujours toute modélisation mathématique. Donc la modélisation mathématique, sans modélisation mathématique, l'économie, c'est le sexe des anges. Alors, ceci dit, le gros problème, c'est que dans nos universités, a fortiori dans les lycées, il y a une partie des étudiants entrant en économie, parce qu'ils n'ont pas réussi à entrer en gestion, qui sont incapables du minimum de compréhension mathématique. J'ai fait pendant quelques années le cours de licence 1 de mathématiques, quand même hyper simple, et j'avais au début, dans l'amphi, au lieu de 330 étudiants inscrits, j'ai jamais compté plus au premier cours que 110 étudiants. Il n'y en avait donc qu'un tiers qui venait au cours. Et après la première interro en TD, ils étaient 40. Donc en gros un dixième. Quand on leur demandait pourquoi, bon, en maths, on aura entre 4 et 6, et en allant à tel cours, on peut avoir 14 en répétant textuellement ce que dit le prof. Donc, on va gagner des points ailleurs. Mais donc, ça prouve, si vous voulez, que ces étudiants, les deux tiers, considèrent qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de 6 en maths. Alors, pour ce genre de public, qu'est-ce qu'ont fait les Canadiens ? Ils ont créé des licences d'administration publique, où l'économie est enseignée éventuellement avec rigueur, avec ses fondements de méthode, disons, avec ses lois, etc., avec des tableaux descriptifs, mais sans trop de mathématiques. Bon, et on peut exposer le système d'input à output sans mettre des matrices épouvantables au tableau. On peut l'exposer comme ça, avec des exemples, etc. Et je pense donc qu'une des erreurs qu'on fait dans l'université française, c'est de penser que tout le monde doit faire de l'économie avec des mathématiques, alors qu'on a besoin, en gros, de 3 économistes par an en France pour gérer les actions de l'État. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de quantité d'économistes. Et que donc, il serait très bon de dire, au fond, on va créer l'équivalent de la section BL pour Normal Sup, où ils font pas mal de maths, mais avec moins de maths, mais en faisant de l'histoire sérieusement, en faisant de la sociologie sérieusement, de l'histoire des institutions et de l'économie, disons, littéraire, entre guillemets, avec un minimum de maths, c'est-à-dire avec les maths qui existaient dans le manuel de Barre. Je pense que ce serait beaucoup mieux plutôt que d'installer des tas d'étudiants économiques qui ne comprennent absolument rien au début du cours. Alors, en préalable aux études économiques, à mon avis, en lycée et en université, il faut parler des institutions et des marchés. Les marchés avec un S, pas le marché. Et donc, montrer que tout s'inscrit dans ces institutions et ces marchés. On ne peut pas parler d'une analyse économique sur la planète Mars. Et que ces institutions et ces marchés s'expliquent. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des analyses économiques des institutions, Douglas North, etc., ou du droit, qui permettent de comprendre un petit peu, enfin avec certains principes économiques, l'évolution de certaines institutions, certaines règles de droit. Donc ça, c'est absolument fondamental, je crois, parce que ça fait sortir la critique des économistes atterrés, disant « vous avez des modèles formels qui ne s'appliquent pas ». S'ils s'appliquent, mais il faut savoir sur quoi on les applique. Et donc savoir pourquoi les syndicats allemands diffèrent des syndicats français. Bon, et à partir de là, après, vous pouvez comprendre un petit peu les dynamiques sociales des deux pays. Alors, Un autre élément que je pense absolument fondamental, c'est de coller au développement récent. On croit que, parce qu'on s'adresse à un public d'universitaires, d'étudiants de première année, il ne faut pas parler, par exemple, d'économie comportementale, parce que c'est un développement récent, ou d'économie expérimentale. Ce sont des choses hyper simples. L'économie comportementale, il n'y a rien de plus simple que de prendre des exemples ou même d'exposer des principes assez détaillés de ce genre d'études. Et donc, c'est très important parce qu'en physique, on vous parle de quanta assez rapidement, même au lycée. Et alors, en économie, on va dire, ah ben non, c'est trop récent, on ne va pas en parler. Or, c'est souvent ces développements récents qui reviennent sur des développements anciens. Parce que, par exemple, l'économie comportementale, ce n'est qu'une application du subjectivisme, justement, de cette branche du marginalisme qui est allée sur les économistes autrichiens. Donc, et de Hayek, d'ailleurs, avec son grand bouquin, là, de 40 ou 41, 42, je ne sais plus, sur les processus de mémoire, etc. Donc, sur les fondements de la psychologie. Donc, l'économie comportementale, si vous voulez, elle a des racines. C'est quelque chose de très simple. Et c'est quelque chose qui permet que ça ne soit pas utilisé par les critiques un peu abruties de l'analytique économique, si vous voulez, en disant « Ah ben oui, vous dites qu'il y a la demande, mais en fait, on sait que si vous avez acheté le ticket du Super Bowl $3,000, vous irez, même s'il y a une tempête de neige, alors que si vous l'aviez acheté $20, vous diriez « Oh ben, je ne vais pas y aller ». Bon, d'accord. Ça, ce n'est pas une critique de l'analytique économique, c'est simplement un certain nombre de choses qu'on peut rajouter. Donc, je pense assez important de coller un petit peu au développement récent, qui sont souvent quand même assez pertinents, parce que les économistes, il n'y en a plus trois maintenant. Il y en a 1 million en Chine, 500 000 en Inde, etc. Donc ça s'est tellement développé qu'il y a quand même pas mal de choses qui sortent de manière récente. Alors ensuite, un point à mon avis absolument essentiel, c'est de développer non pas des discussions sur la causalité, qui sont toujours alambiquées, qui ne servent pas à grand-chose pour la compréhension des étudiants, mais de développer des discussions sur le mode de preuve. Ça, je pense que c'est absolument fondamental. Le mode de preuve est très différent dans les différentes sciences sociales. L'historien a un mode de preuve. L'historien, il fait une synthèse à partir de tous les matériaux, puis ensuite, il a une idée synthétique de la raison pour laquelle Ravaillac a été tué Henri IV, et ensuite, il se dit, si je trouve un document ultérieur que je n'avais pas utilisé pour mon idée synthétique, mais qui va dans ce sens-là, ça sera une preuve externe, ça sera intéressant. Donc, il a des modes de preuve, y compris dans la construction de sa synthèse. Mais ce n'est pas les modes de preuve de l'économiste. De la même façon, le sociologue n'a pas les mêmes modes de preuve. Si vous lisez les critiques qu'on faisait sur la sociologie durkheimienne, là, qui essayait d'imposer son paradigme, visiblement, c'était des modes de preuve, si vous voulez, proposés par Durkheim et Mauss et compagnie, qui étaient très différents des modes de preuve de l'économiste, qui sont beaucoup plus proches, en fait, de la physique, hein, c'est-à-dire annoncer des résultats, tester si les résultats sont exacts, en inférer que les principes théoriques qui arrivent aux résultats sont bons. Et puis avec des problèmes de mesure aussi, hein, évidemment, parce que les sociologues vont vous dire on ne peut pas mesurer, par exemple, le degré de lutte sociale. Bon, nous, on peut mesurer, si vous voulez, le degré de je sais pas moi, d'investissement, le ratio d'investissement dans le pays, etc. Donc il y a aussi des problèmes de mesure. Donc je pense que c'est très important, non pas de faire un cours sur le mode de preuve à l'origine, mais de temps en temps de revenir là-dessus et de justifier ces modes de preuve. Et il y a énormément de problèmes qui ont été posés dans l'histoire de la pensée économique de manière qualitative qui se retrouvent sur des problèmes statistiques et qu'on peut exposer très simplement. Je vous cite quelques problèmes pour vous montrer à quel point les modes de preuve, en particulier les statistiques, sont proches de problèmes anciens qu'on discute autrement. L'endogénéité. Quand vous avez une fonction statistique, vous estimez le taux d'inflation sur un certain nombre de variables. Évidemment, vous n'informez que très peu des causes de l'inflation, surtout si vous êtes sur des données individuelles. Sur des données individuelles, vous n'expliquerez que 5 à 20% du phénomène. Il y a beaucoup, beaucoup d'hétérogénéité non expliquée. Ça veut dire qu'il y a des variables qu'on appelle latentes, de termes anglo-saxons, des variables latentes qui sont des causes réelles du phénomène, mais qu'on n'a pas mesurées. Par exemple, des variables liées à l'inflation étrangère, etc. Si l'inflation étrangère est liée, par exemple, au PIB français pour des raisons de commerce international, à ce moment-là, ça s'introduit à la fois comme explication d'une cause et comme explication d'une conséquence. Et donc, il y a une circularité qui s'introduit. Donc, cette circularité de causalité, en fait, les statisticiens l'indiquent comme le fait que cette variable non informée est une variable latente, et il faut corriger le mode d'estimation. Et il y a plusieurs modes de correction, plus ou moins compliqués, mais relativement robustes. Donc ça, c'est le cas typique de quelque chose que, à mon avis, on peut expliquer à un avec des exemples, évidemment, à un étudiant de terminale, et qui dit beaucoup de choses, et qui dit que donc les statisticiens ont réfléchi à des problèmes qu'on posait comme des problèmes généraux, et qui lançaient des écoles d'économie, si vous voulez, dans des directions complètement différentes. Biais d'agrégation. On sait que quand on part de l'individuel à l'agrégé, quelquefois, les lois ne sont pas les mêmes dans les deux sens. C'est la raison pour laquelle, bon, par exemple, l'école autrichienne dont je parlais a refusé absolument de discuter des lois agrégées en disant toute la causalité est individuelle. Mais maintenant, on sait analyser ce genre de choses. Donc, statistiquement, on sait traiter ces biais d'agrégation. Pass dependency, c'est un phénomène qui existe dans toutes les sciences sociales. La dépendance au chemin, le fait que vous avez une croissance d'un pays en développement, que vous pouvez faire par des infrastructures, par exemple éducatives au début, puis de transport, ou dans l'autre sens, commencer par faire des routes pour que les villages communiquent avec les écoles, puis ensuite vous ferez des investissements en éducation. Vous faites exactement la même chose des deux côtés, c'est-à-dire le même volume d'investissement et le même type, vous n'arrivez pas au même point. Donc vous n'êtes pas sur un plan euclidien, si vous voulez, vous êtes dans une surface de Riemann où vous n'arrivez pas au même point en faisant deux cheminements parallèles. Donc ça, c'est simplement parce que le premier cheminement a modifié tous les prix relatifs. Donc le deuxième cheminement ne va pas suivre le même chemin, si vous voulez, puisque les prix relatifs ont changé. Donc ça, la pass dependency, c'est un problème absolument fondamental, parce que c'est le problème de la lecture statistique de données temporelles et d'évolution historique. C'est quelque chose qu'on peut parfaitement expliquer à des étudiants de tout niveau et corriger, simplement en utilisant des géométries riemanniennes plutôt qu'euclidiennes. Bon, je vais vous en dire encore une dernière fois, si vous voulez. C'est un problème absolument fondamental sur lequel sont revenus deux économistes récemment, Ziliak et McCloskey, qui ont dit pourquoi on a choisi cette règle du test à 5%. Pourquoi dit-on qu'une variable est signifiante dans l'explication d'un phénomène quand on a 5% seulement de chance de se tromper en disant l'inverse ? Bon, c'est effectivement un choix complètement au hasard qui a été fait par le créateur du thé de Student, bon, qui ne s'appelait pas Student. Et donc, il rediscute ça en disant on a fait énormément d'erreurs. Pourquoi t'on fait des erreurs ? Parce que cette validité à 5%, vous l'obtenez toujours en multipliant les données. Si vous avez 1000 observations, votre validité ne vaut pas. Et puis, vous faites 10 000 observations, tout à coup, toute la significativité des coefficients augmentent et vous pouvez toujours tester que votre coefficient est différent de zéro. Donc ça, c'est un problème absolument fondamental qui, d'ailleurs, met par terre absolument 90% de la littérature actuelle sur données individuelles nombreuses. 90% est mise par terre parce qu'on ne tient pas compte du fait que la multiplication des données, en fait, génère des données qui sont très proches des points focaux, c'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, 400 types de ménages, vous avez 800 observations. Ils sont tous plus ou moins informés. Il y en a 30 qui n'ont pas été informés. Vous avez 8000 observations. Vous avez de 5 à 10 à 20 ménages dans chaque point focal. Et vous avez une répétition d'informations. Et quand vous avez une répétition d'informations, quand une information est vue deux fois, ça diminue beaucoup les écarts types des coefficients estimés. Donc tout devient significatif. Et donc ça veut dire qu'il faut corriger cette accumulation sur des points focaux qui est en fait probablement liée à un problème simplement topologique qu'on appelle le théorème de Borsuk-Ulam, qui dit que les galaxies, forcément, même si elles démarrent avec un Big Bang dans tous les sens, les choses vont se rassembler en galaxies parce que ça se rassemble sur des points focaux. Donc vous voyez que tous ces problèmes statistiques sont des problèmes, en fait, assez simples et je pense très important qu'à tout niveau de l'enseignement, on vienne sur des problèmes comme ça et qu'on ne dise pas aux gens « la règle, c'est 5% », puis on n'en discute pas. Parce que le jour où ils voient la vérité, c'est-à-dire que la règle de 5% a fait faire énormément d'erreurs, en disant on dépiste à 40 ans parce que c'est significatif, parce qu'on avait 20 000 observations, puis en fait c'était beaucoup moins coûteux et plus logique de dépister à 55 ans. Donc on a fait une quantité d'erreurs à cause de ces règles absolues, si vous voulez, alors que maintenant on sait que ce sont des règles qui sont plus ou moins erronées. Juste un point que je crois très important aussi, sont oubliés de tous les programmes d'économie domestique. L'économie domestique, si vous ne prenez que la part de la production domestique, donc le fait d'accompagner vos enfants à l'école, qui est substituable au marché, donc vous pouvez payer quelqu'un. Alors, on va pas introduire dans le PIB marchand le fait de discuter avec sa femme, bon, parce qu'il n'y a pas de substitut marchand, Bon, exact, en tout cas. Tandis qu'on va introduire le fait d'accompagner ses enfants. Et donc, ça représente au moins 40% du PIB, si on ne prend que la partie subsidiaire au marché. Or, ça, c'est en dehors des programmes. Et l'économie domestique, ça explique énormément de choses. Que ça explique le lien au marché du travail des ménages, la façon dont ils occupent leur temps, pas seulement leurs ressources monétaires, mais leur temps, etc. Donc, il est absolument important d'introduire ça aussi très tôt et de montrer qu'il y a des analyses modernes de ce qu'on appelle la production domestique qui disent énormément de choses, y compris sur la formation des familles, etc., l'endogamie, et que donc ça, c'est vraiment du réel et pourtant de l'analyse économique d'excellent niveau. Je passe ensuite sur le problème de l'articulation entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, mais ça, c'est encore une autre grosse difficulté, dans la mesure où nous, universitaires, on ne connaît absolument pas ce qui se fait dans le secondaire, et je pense que beaucoup d'enseignants du secondaire ne savent pas ce qui se fait dans le supérieur. Donc c'est quand même un petit peu... Voilà.